on manque de démocratie. On manque de démocratie. Et je suis content que ce soit toi, parce que t'es un type formidable, t'es valeureux, t'es compétent, t'es l'honneur de ce pays. Et vraiment, on ne fera pas de cadeau, mais je suis content de serrer la main de mon adversaire politique. Et tu sais quoi ? Il ne faut pas que vous soyez minable. Je vais vous donner un coup de main. Et le lendemain, l'opposant voyait devant sa maison un magnifique Pajero, ces belles voitures qui étaient convoitées par tous. Et évidemment, il était cuit, c'est-à-dire que tous les voisins voyaient qu'il s'était fait acheter par le rusé Mobutu. C'est une histoire vraie, ce que je raconte là, qui est très courante, qui est connue. Je me demande si c'est pas un peu la même chose pour un certain nombre d'altermondialistes. Je caricature très fort.
Oui, il me semble. Hein. Moi, je pense en tout cas que le problème, puisqu'on, évidemment, tout le jeu et toute la force du pouvoir, c'est de pouvoir récupérer ce qui est récupérable. Tout ne l'est pas. Mais la première chose, et là où on tombe directement dans le piège, c'est lorsque, volontairement ou non, la plupart du temps, évidemment, involontairement, je crois vraiment, on critique le pouvoir en parlant son discours, en utilisant déjà les termes et les arguments du pouvoir. C'est ce que je disais tout à l'heure avec « on dénonce la globalisation là où d'autres défendent la globalisation ». On dénonce le marché là où certains défendent le marché. On défend l'État là où certains critiquent l'État. Mais bon, je veux dire, là on fait déjà le jeu du pouvoir lorsqu'on pense dans ces termes, lorsqu'on pense dans les termes du pouvoir. Et là, il a déjà gagné. La moitié du chemin est déjà fait, je pense. Il y a des enjeux profondément politiques dans le discours, et la façon dont on nomme les choses, c'est une façon d'identifier des adversaires, et donc on est directement en prise avec des questions éminemment politiques. Donc encore une fois, au risque de me répéter, lorsque l'adversaire c'est les marchés financiers, je ne vois pas ce qu'on peut construire comme opposition politique au pouvoir en ayant comme adversaire des marchés financiers qui sont désincarnés, enfin présentés comme désincarnés, anonymes et globalisés. Je ne vois pas politiquement comment ça peut être porteur.
Alors dès le départ de ce bouquin, vous vous référez à Monique et Michel Pinson-Charlot et à leur travail, notamment, je suppose, sur le travail qu'ils ont fait sur Sarkozy, le président des riches, et sur l'oligarchie. Eux, ils restent sur ce terme d'oligarchie. Pourquoi cette référence à ces deux sociologues ?
Je pense que les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur ces questions-là leur doivent énormément, puisqu'ils ont réussi à donner une légitimité à l'analyse sociologique des classes supérieures, là où, comme ils le disent souvent, les études sont très nombreuses et pullulent lorsqu'il s'agit de penser les classes populaires, fonctionnement des banlieues, mais on a été très longtemps moins enclin à travailler d'un point de vue sociologique sur les classes dominantes et avoir été parmi probablement les premiers en France à faire un travail vraiment sérieux et rigoureux de sociologie, de déconstruction des classes dominantes, l'aristocratie, l'oligarchie financière, le travail sur les cercles, les propriétaires de châteaux, etc. Voilà.
Ce que disent Monique et Michel Pinson-Charlot dans leur travail sur les quartiers qu'ils affectent particulièrement à Paris, le 16e, Neuilly, etc., ce qu'ils ont noté, c'est la solidarité. C'est, selon eux, la seule classe sociale aujourd'hui qui savent parfaitement être solidaires les uns avec les autres et qui savent parfaitement assurer aussi leur reproduction.
Oui, c'est probablement l'autre élément essentiel, c'est le fait d'avoir insisté, donné une visibilité sociologique à cette dimension très collective, pour ne pas dire collectiviste, collectiviste des classes dominantes, là où à nouveau...
Le dernier communisme, finalement, c'est à Neuilly.
Probablement. là où, encore une fois, je disais tout à l'heure, par rapport au néolibéralisme, là aussi, le libéralisme, c'est le règne de l'individu. C'est la chasse, c'est le prédateur, c'est la concurrence sauvage, la réussite personnelle, individuelle. Et ce qu'ils montrent bien dans leurs travaux, c'est que derrière ce discours, qui est un discours d'accompagnement souvent à l'attention des managers, hein, qui n'est, c'est pas l'oligarchie, mais des cadres inférieurs dans la presse économique, ce discours sur le manager, le gagnant, etc. C'est une réalité, mais c'est un discours qui masque aussi, même inconsciemment, toutes les institutions sociales, toutes les médiations par lesquelles les agents de la classe dominante se trouvent être intimement liés les uns aux autres et où se crée ce sentiment de solidarité de classe, il faut bien l'appeler comme tel. Et c'est pour ça que là aussi, depuis plusieurs années, en prolongeant un peu évidemment ce qu'ils ont fait à l'échelle de la France, je m'intéresse beaucoup à tous ces lieux de sociabilité qui ne sont pas seulement les conseils d'administration, mais qui sont les cercles privés, les clubs très sélects, toute l'importance des réseaux familiaux aussi, dans la très haute société, des mariages, de ce monde où évidemment tout mariage, toute union est un placement autant qu'une affaire privée en quelque sorte.
Monique et Michel Pinson-Charlot, je vous retrouve dans cette école de la rue Lepic, cette école primaire où vous allez voir, c'est des classes de CM2.
Et on y va. Classe 2, monsieur Collet.
Là-bas, si j'y suis, 13 février 2012.
Ah, On rentre, toute la classe se lève.